الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شفاغيثو، nous essayons d'avancer dans les explications concernant la dernière décade. On avait cité pas mal de points hier concernant l'importance de cette décade. Comment le prophète alayhi salatu wassalam consacrait ses nuits en ibadah, et point qu'on n'avait pas détaillé hier concernant les habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant cette dernière décade. On avait dit qu'il réveillait toute sa famille pour prier. On a vu le hadith de Imam Tirmidhi et on avait dit que même une femme qui n'est pas en état de prier parce qu'elle est en état d'impureté, elle doit quand même marquer sa présence durant cette nuit du destin. Et on avait également rajouté qu'Allah connaît les personnes qui avaient la bonne intention et qui ne l'ont pas fait. Et certains savants disent qu'ils font un parallèle avec un hadith qui ne concerne pas la nuit du destin, qui ne concerne pas le masla de la ha'idha, de la femme en état de haid, mais ils font un parallèle, on va comprendre. Il y a un hadith qui stipule que lorsqu'une personne est malade ou en voyage ou que la personne et devient âgé, et que la personne ne peut plus ou ne peut pas accomplir les bonnes actions qu'elle avait l'habitude de faire avant, ou alors quand la personne est à sa maison ou en bonne santé, Allah demande aux anges d'accorder à ce serviteur l'équivalent des hasanat, des récompenses qu'il obtenait lorsqu'il faisait ses bonnes actions. C'est-à-dire que par exemple, une personne est âgée, il y a des cas, je pense, tout autour de nous, quand on a des parents qui sont âgés et qui, mashallah, de leur jeunesse jusqu'à 50, 60, 70 ans, ils jeûnaient parfaitement, ils faisaient la prière de la nuit, la soirée de Tarawih, mais avec l'âge, différents problèmes de santé et tout simplement la fatigue liée à la vieillesse, ces personnes ne peuvent plus se réveiller tôt pour prier ou ne peuvent plus compléter les salats de Tarawih. Allah leur accorde les récompenses et c'est la promesse d'Allah qui découle de ça. Générosité, de sa clémence. De même qu'une personne est en voyage, imaginez, je prends l'avion, je vais en métropole, et durant toutes ces nuits de Ramadan, je passais, mashallah, 2 heures de l'qiyam. Le fait que je ne puisse pas le faire dans l'avion, vaut mieux ne pas le faire non plus, hein, dans l'avion, même prier assis, ça risque de nous attirer des problèmes, Allah musta'an. Voilà, le fait que je ne puisse pas le faire, on a espoir qu'Allah nous accorde les récompenses parce que le niya est bien présent. C'est-à-dire que si on n'était pas en voyage, on aurait fait autant de bonnes œuvres, et ça émane du ilmullah, de la grande connaissance, de la connaissance illimitée d'Allah, un élément qu'on avait cité hier, ou avant-hier, ou alors à d'autres occasions, oui, dans le programme du vendredi, on rappelait que croire au destin, ça nécessite d'avoir une conviction sur la connaissance globale, parfaite, pointilleuse de notre Seigneur du passé, du présent, du futur, mais également du futur qui ne doit pas se produire, c'est-à-dire le conditionnel. Si donc notre Seigneur connaît notre intérieur et peut nous accorder les récompenses, donc certains savants disent que la femme qui, durant les 20, les 22 premiers Ramadan, elle priait, elle faisait des efforts, mashallah, le fait qu'elle ne puisse pas faire ses 10 rakats de tahajjud par exemple, ou lire ses 3 juz, ses 3 séparas de Coran comme elle le faisait toutes les nuits du Ramadan, on a espoir qu'Allah lui accorde l'équivalent de récompense, parce que la seule chose qui l'empêche de prier et de lire le Coran, c'est cet état. Et c'est Allah qui a créé Sunnatullah, qui a créé l'être humain de cette façon, et la gente féminine avec cet état qui nécessite l'éloignement de la prière pendant un laps de temps, hikmatullah. Et le fait qu'elle ne prie pas et qu'elle ne lise pas le Coran, les savants disent que ça c'est un acte d'obéissance, de ta'a. Elle obéit à son Seigneur qui lui demande de ne pas prier à cet instant. Non. Oui, donc importance que les dames, même en état de haid, elles répondent présent autant que possible dans cette dernière décade. Oui, le point justement qu'on n'avait pas rappelé hier, c'était pour les enfants. Le prophète demande également aux enfants de se réveiller, de se tenir debout pour la prière. Bien sûr, les enfants qui peuvent le faire. Et bien sûr, les enfants, on ne va pas leur demander de tenir debout pendant 1 heure et 2 heures. Non, mais ne serait-ce que 5 minutes ou 10 minutes. C'est-à-dire, les savants disent que c'est un marqueur psychologique pour les enfants. Le fait que les enfants grandissent en ayant intégré que durant le mois de Ramadan, les 10 derniers jours de Ramadan, mes parents me réveillaient et ils me demandaient de me tenir debout à côté d'eux à 3h30, à 4h du matin pour prier, même 10 minutes, 15 minutes, mais ils vont intégrer ça comme faisant partie de leur éducation, de leur personnalité, de ce qui fait d'eux des croyants et des musulmans. Donc c'est un marqueur psychologique et spirituel important. Ça va être un repère pour eux. Tout comme quand on amène les enfants à accomplir la umra, chose que j'encourage. Il y a des parents qui me disent que bon, on va faire la umra, mais avec les enfants c'est compliqué. On les laisse à la réunion et avec les parents, les grands-parents. C'est bien. Ça vous fait des vacances, cool, tranquille. On n'a pas les enfants dans les pattes, je peux comprendre, mais si un enfant est en âge de comprendre, un petit qui a 5 ans, 6 ans, au-delà de 5, 6 ans où l'enfant comprend, mashallah, le fait de voir la Kaaba, de voir des musulmans de toutes origines, de toutes les nations, il va voir pour la première fois de sa vie des musulmans chinois, des musulmans russes, les russes, hein, il n'y a pas de souci avec eux, des musulmans de Nouvelle-Zélande, d'Afrique, du Japon, mashallah, de toute nationalité, et les parents doivent montrer, expliquer aux enfants que voilà, ce musulman-là, il vient de tel endroit, et ils adorent tous le même Dieu que nous. Ils adorent Allah, ils prient comme nous, ils se prosternent devant Allah. Donc cette religion-là, c'est la vérité qui est partie dans le monde entier. C'est un marqueur pour eux, psychologique et spirituel. Ils vont grandir avec ces valeurs, et ça va renforcer leur iman. Tout comme, je m'étale dans les exemples, mais C'est important qu'on éduque nos enfants et qu'on les fasse découvrir la beauté de la religion et la beauté des bonnes actions. Et non pas les brusquer. C'est pas ce père de famille qui va hurler sur ses enfants, voilà, qui va les bousculer, les inciter, les motiver et leur montrer la beauté de notre religion. Donc, voilà. Et donc, je disais que ces parents qui amènent leurs enfants à la Umrah, c'est une excellente chose. Tout comme les parents qui vont faire le sacrifice de l'Udhiyah d'Ibrahim alayhi salam, le jour du Eid al-Adha, ce qu'on appelle ici le Qurbani, que les enfants voient l'animal, le mouton, cabri ou autre, et qu'ils réalisent le fait qu'on sacrifie l'animal nous-mêmes, et non pas envoyer de l'argent dans un pays à l'étranger qui revient beaucoup moins cher. Mais le fait qu'ils voient l'animal, ils vont intégrer ça comme faisant partie de leur religion, ça va être un repère pour eux. Donc, réveiller les enfants, ne serait-ce qu'un instant, 5 minutes, 10 minutes, durant cette dernière décade, c'est quelque chose qui va leur être extrêmement profitable, et ils vont grandir avec cette bonne habitude. C'est pas qu'ils vont découvrir à 14, 15 ans qu'il faut se réveiller, non, qu'ils aient pris l'habitude depuis leur enfance, pardon. Point suivant, le qadr. Mais ça, on ne va pas trop s'étaler parce que dans d'autres programmes, on avait déjà vu l'étymologie de qadr. Il y a deux sens qui se dégagent. Qadr qui veut dire importance. D'où le verset « وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ » Le mot qadr, de le sens de valeur et d'importance. Et nous, on a une expression à La Réunion qu'on dit de faire qadr d'un bienfait. C'est justement donner de l'importance et de la considération. Donc, Qadr, dans le sens de grande importance, c'est la nuit où le Coran a été révélé, le meilleur des livres, au meilleur des prophètes, pour la meilleure des ummah. C'est une grande importance, c'est une nuit d'une grande importance parce que Allah fait descendre quantité d'anges. Les savants disent qu'il n'y a pas une période de l'année où il y a autant de malaïkas qui sont présents sur terre. Et quand on dit sur terre, c'est avec vous et moi, présents avec nous. Mais bien sûr, c'est un monde parallèle. On n'a pas essayé de chercher un lien avec eux, on n'a pas essayé de détecter leur présence, non, ça ne nous appartient pas, et il ne nous est pas demandé non plus de le faire, parce que ça ne fait pas partie de nos 5 sens. D'accord ? Ce sont des mondes invisibles, et le monde du visible ne doit surtout pas se mélanger avec le monde de l'invisible. Non. Le Prophète avait une fois, à Madina Munawwara, entendu un ange qui était présent lors de la lecture du Coran, si je ne me trompe pas, que c'était Usayd ibn Khudayr, c'était un jeune, une des premières personnes qui a marqué donc l'histoire de l'islam à Madina. Le prophète alayhi salatu wassalam avait vu ou entendu un ange qui était présent lors de la lecture de ce sahab. Donc voilà pourquoi également cette nuit du destin, une grande importance, présence d'anges, de malaïka, grande quantité de rahma, de bénédiction, de clémence qui descendent et un pardon exceptionnel en cette nuit du destin. Laylatul Qadr, qadr maintenant de le sens de destin, inna anzalnahu fi laylatil qadr. parce que les décisions de l'année sont confiées aux anges lors de cette nuit. On ne va pas détailler les différents types de destin. On l'avait fait dans un programme spécifique sur le destin, programme d'une heure 15 ou d'une heure 30. Il y a moyen de retrouver les traces audio de ce programme. Il y a différentes catégories de destin. Il y a le destin général de l'humanité, et ainsi de suite. Et là, nous parlons du destin annuel, d'une année à l'autre. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, dit, et petite parenthèse, lorsqu'un sahaba dit quelque chose, c'est ce qu'on appelle une citation d'un sahaba, qu'il n'attribue pas au prophète alayhi salatu wassalam, ça s'appelle un mawquf. Ça s'appelle un mawquf. Donc ça fait partie de ulum al-hadith. Et le mawquf n'a pas la même valeur que le hadith. Pourtant, c'est rapporté d'un sahaba. Après, il y a différentes, il y a deux catégories. Il y a le mawquf ma'a hukm al-raf', qu'une parole qui a une telle intensité, de telles informations, que assurément ce que le sahaba l'a entendu. Mais ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, c'est la précision de nos sources. Lorsqu'on a un mawquf, le mawquf ne sera pas forcément un hujja, ne sera pas une preuve pour une action, pour attester, pour une règle de jurisprudence par exemple. Il faut que ce soit vraiment un hadith avec une chaîne de narration, que les propos viennent du prophète. Le sahaba dit « j'ai entendu le prophète dire » ou « j'étais présent lorsque le prophète a dit telle parole » ou « j'ai vu le prophète faire telle chose ». Chers frères et sœurs, ça c'est un gage de solidité, de fiabilité de notre religion. Notre religion, elle est cohérente et on a besoin de cette cohérence, de cette intelligence. Il n'appartient à personne, quelles que soient les époques, quel que soit le niveau de piété atteint par Foulane ou Foulane, personne n'est en droit d'apporter quoi que ce soit, un atome d'information dans la religion qui n'existait pas à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. C'est pour ça que les ulama de hadith considèrent que la citation du sahaba qu'il n'attribue pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas considérée comme un hadith. On voit la fiabilité et l'importance des sources de notre religion. Donc Ibn Abbas radiallahu anhu m'a dit, donc c'est un commentaire qu'on prend en compte. Yuktabu min umil kitab fi laylatil qadr, tout ce qui est écrit d'une année à partir de umul kitab lors de cette nuit, tout ce qui concerne min rizqin ou mawtin ou hayatin ou matarin, tout ce qui doit se passer cette année, entre autres la vie, la mort, c'est-à-dire les naissances, les décès, al matar, quelle quantité de pluie va tomber dans quelle région du monde, telle joie et telle quantité, le hajj, telle personne va faire le hajj, telle personne n'ira pas, plutôt telle personne ira faire le hajj, ça aussi c'est écrit lors de la nuit, c'est révélé lors de la nuit du destin. Donc ceux qui veulent faire le hajj, ceux qui veulent avoir des enfants, ceux qui veulent guérir d'un cancer, d'une maladie, donc ne pas mourir, ceux qui veulent voir leurs parents retrouver la santé et être guéris de tel ou tel problème, de telle maladie, c'est vraiment lors de la nuit du destin qu'il faut faire des do'as de façon intensive et avec beaucoup de conviction et demander à Allah la santé, un enfant, la protection contre telle ou telle chose. Naam. Une autre citation de Ibn Abbas radiallahu anhuma qui dit que innaka la tarar rajula yamshi fil aswaq wa qad waqa'a ismuhu fil maut. Ajib. Dit qu'il se peut que tu vois quelqu'un marcher auprès de toi dans le marché, dans le sens des magasins, en train de faire ses courses, ainsi de suite. Et cette personne, son nom est déjà écrit dans la liste des gens qui vont quitter ce monde bientôt. Juste une petite parenthèse, une parallèle. Je visionnais avant-hier une vieille vidéo que j'ai retrouvée sur YouTube d'une des salats de Eid qui était diffusée en direct. C'était la première fois, il me semble, à la mosquée Nour al-Islam de Saint-Denis, et on voyait les personnes, et c'était amusant de voir des gens, enfin, ça remonte à 13 ans ou 15 ans il me semble, qui étaient beaucoup plus jeunes, d'accord, ce qui est normal, mais ce qui était déchirant, c'était de voir beaucoup de gens qui ne sont plus parmi nous maintenant, des gens qui étaient là au premier rang, au deuxième rang, qui étaient présents, qui étaient attentifs au discours, à la prêche, au khutbah. Mais subhanallah, Allah les a repris. C'est comme ça qu'Allah organise la vie. Sunnatullah, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Donc en cette nuit du destin, le nom des défunts, de ceux qui vont mourir, est également révélé. Donc c'est une nuit d'une grande importance pour toutes ces raisons. Naam. Oui, j'essaie de raccourcir un peu. Ce que nous devons faire au maximum dans cette dernière décade, on va commencer par le niyyah, l'intention. On fixe notre intention. Tout comme avant le mois de Ramadan, on avait parlé de l'importance du niyyah, de fixer son intention, et par l'intention, Allah nous accorde des récompenses. Là également, on doit faire un renouvellement d'intention pour ces nuits paires et impaires et définir quel sera notre quota de prière, de dhikrullah, de tilawatul Qur'an, et ainsi de suite. Le niyyah. Deuxièmement, dua. Demander à Allah son aide. Parce qu'on n'arrivera jamais à accomplir ses bonnes œuvres sans l'aide et l'acceptation d'Allah. Et c'est le sens de « wa iyyaka nasta'in » qu'on a eu l'occasion de développer. C'est auprès d'Allah que nous recherchons l'aide, l'aide contre toute chose, contre tout événement, pour toute chose, mais également l'aide pour rester ferme dans la foi et accomplir de bonnes actions, mais également l'aide de notre Seigneur pour rester éloigné des péchés. Ainsi, les savants conseillent, au moment de la rupture du jeûne, c'est-à-dire faire du'a de façon globale, hein, qu'Allah nous accepte pour passer ses nuits en ibadah, mais ce que nous pouvons rajouter, par analogie, c'est qu'au moment de la rupture du jeûne, nous avons tous au moins une invocation qui est acceptée, donc demandez du'a au moment de rompre le jeûne pour qu'Allah nous accepte ce soir pour passer la nuit en ibadah ou passer le maximum de temps en adoration, et demandez à Allah de nous accorder la concentration, la dévotion, la présence de cœur, la capacité d'orienter nos cœurs vers lui et de pleurer dans le du'a, dans l'istighfar. Parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant que de demander tawbah pour un péché qu'on a accompli dans notre jeunesse et d'y associer des larmes sincères. Les conditions du repentir sincère sont ainsi réunies. Naam. Ce que nous devons faire maintenant, on passe directement au a'mal des nuits impaires et paires, donc de la dernière décade. La salah, autant que possible, man qama laylatal qadri, imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qama, dans le sens d'être debout en prière, mais dans le sens plus général et plus global, de passer la nuit en adoration. Et qui dit adoration, dit salah, dhikrullah, tilawatul Qur'an, du'a, istighfar, et toutes les bonnes actions que nous connaissons. Par opposition à des actions qui nous demandent des mouvements. Ce n'est pas le moment de sortir, d'aller voir des gens. Ce n'est pas le moment d'aller faire la da'wah non plus. Ce n'est pas le moment d'aller rendre visite aux personnes malades. Ça, on peut le faire en matinée. Mais la nuit, ces nuits-là, c'est pour le qiyam, c'est pour des adorations en position statique, fixe, où on ne bouge pas, on reste là pour l'adoration d'Allah, Rabbul Izzah. Par opposition également à d'autres bonnes actions, comme donner à manger aux gens. Non. Ce n'est pas un soir où vous allez inviter des gens à manger qui vont rester là toute la nuit. Non, certes, c'est une bonne action de donner à manger aux gens, mais pas ce soir. À moins que vous fassiez votre repas très tôt. Mais je veux dire, les nuits d'adoration, on est seul, isolé dans un endroit, on se concentre, on fait naître la dévotion, même si on n'a pas l'habitude. C'est le moment de provoquer, de faire naître cette dévotion pour trouver, inshallah, le contentement d'Allah, Rabbul Issa. Le hadith, celui qui passe cette nuit en adoration, imanan wa ihtisaba, imanan de le sens, imanan bima a'addallahu ta'ala min al-thawabi lil-qa'imin. Sharh, commentaire du hadith, avec conviction de ce qu'Allah va accorder à ceux qui font les bonnes œuvres durant cette nuit, c'est-à-dire avec iman, certitude sur la promesse divine, par opposition à celui qui le fait par routine, celui qui le fait parce qu'il faut le faire, par opposition à celui qui le fait de force aussi. Mais qui c'est qui fait ça de force? D'accord? Et le faire avec cœur, avec amour, avec dévotion, on montre à notre Seigneur que nous attendons ce moment et nous aimons ce moment. Ça doit être vraiment le moment que nous attendons toute l'année, enfin avoir cet honneur d'être devant notre Seigneur, avoir 83 années de récompense et obtenir son pardon et avoir l'acceptation des doigts concernant notre dunya et le akhira. Imanan wa ihtisaba, Ihtisaba, avec espoir. Espoir de quoi? Espoir en Allah, en sa clémence, son pardon, ses promesses. Espoir de rétribution, c'est-à-dire avec conviction qu'Allah va m'accorder ces 83 années de ibadah. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un parabole, ce n'est pas un simple exemple, na'oud billah, c'est une promesse d'Allah et Allah va réellement me donner et me l'accorder. Na'am. Les savants disent « Tama'an fi thawabillahi » avec cet espoir qu'Allah va nous accorder les récompenses et cet espoir qu'Allah va nous accorder le pardon. J'ai lu, mais finalement, c'est ce qu'on avait déjà expliqué. Un autre point, avant de développer, ce n'est pas un autre point, mais avant de développer la façon de prier, une citation d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, un conseil d'Ibn Taymiyyah. On doit prendre plein de précautions dans nos rapports avec les conseils, les citations, les hadiths, les mawqoufs bien distingués. Quand un savant, un grand savant comme les Taymiyyah, rahimahullah, Ibn Qayyim, ou des savants du monde indien, quels que soient les savants, on n'a pas à distinguer lui, il est de telle région, non. Qu'on prenne mon achat à l'état, nuit ou autre, quand c'est la citation d'un savant, on prend en considération, mais on ne le sacralise pas au rang d'un hadith. Ça doit être très clair. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, avec toute la science qu'avait Ibn Taymiyyah, ce n'était qu'un homme. Donc on prend ce qu'il dit, c'est un conseil, ça n'a pas la valeur d'un hadith. Mais c'est un bon conseil. Ibn Taymiyyah dit, si vous réalisez, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à accrocher spirituellement lors de cette nuit où vous avez pourtant consacré du temps, vous faites un sacrifice, c'est-à-dire que je me réveille à 1h30 du matin, mashallah, c'est pas que j'ai sommeil, je n'ai pas sommeil, mais je ne trouve pas concentration de l'ibada, je suis lassé, na'oudoubillah, je sens que voilà, j'ai envie de décrocher, j'ai envie de faire autre chose. Il dit que l'origine de ce problème de concentration, c'est peut-être l'excès de points noirs et de péchés qu'il y a sur ton cœur. Ça découle du verset qu'Allah bal ran ala qulubihim et du hadith de Kalpasa m'a dit que lorsqu'un être humain, lorsqu'un croyant accomplit un péché, un point noir s'inscrit sur son cœur, s'installe sur son cœur, s'incruste dans son cœur. S'il demande tauba à Allah, le point noir est effacé immédiatement. Mais s'il ne demande pas pardon et persiste dans le péché et commet d'autres péchés, ce sont d'autres points noirs qui vont être greffés à son cœur jusqu'à ce que le cœur devienne noir, imperméable. C'est un cœur qui durcit. C'est un cœur où il n'y a plus de rahma, il n'y a pas de concentration, il n'y a pas de dévotion, il n'y a pas d'humilité, il n'y a rien qui nous permet de nous rapprocher d'Allah. Il n'y a pas les a'mal al-qulub, il n'y a pas les actions intérieures qui peuvent prendre place. C'est un cœur qui reste obscur, qui ne va pas s'imprégner de la lumière du Coran, ni de la salat. C'est grave ça, c'est grave. C'est-à-dire qu'un cœur comme ça, vous le déplacez, vous l'amenez. C'est-à-dire que la personne voyage, il va devant la Kaaba. C'est un cœur qui risque de ne pas s'imprégner de toute la rahma qui descend parce que le cœur, il est sale, il y a plein de saleté. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas un cœur qui est condamné, attention. Ce n'est pas un cœur qui est condamné parce que personne n'est condamné dans notre religion. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. À l'exception du shirk, personne n'est condamné. Il suffit de demander tawba. Tawbatun nasuha, demander pardon sincèrement à Allah pour nos péchés, et Allah enlève, fait disparaître ces points-là de notre cœur en même temps que nos péchés sont pardonnés. Donc, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, conseille, si vous voyez que vous avez du mal à accrocher, dans les salats, le tahajjud, vous faites, vous trouvez pas concentration, vous bougez, ça gratte partout, c'est des choses qui arrivent, hein, quand vous savez quand vous n'y êtes pas. Et ça, c'est terrible parce que vous avez fait l'effort. Arrêtez-vous un instant, complétez votre salat, arrêtez-vous, stoppez tout et commencez à demander istighfar. Vous avez le choix entre astaghfirullah, astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayhi, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, que je recommande fortement, il y a 100 fois par exemple, le seuil de l'istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, c'est très long, vous avez les fiches des invocations. Et le fameux Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, demandez istighfar, prenez le temps 10 minutes, ça c'est moi qui rajoute 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, demandez beaucoup d'istighfar en pensant à vos péchés avec espoir que ces points noirs vont être enlevés, que ça puisse décrasser votre cœur pour enfin trouver lumière, concentration et dévotion. On est déjà à 25 minutes, on s'est fixé 20, 25, c'est la limite à ne pas dépasser. On va s'arrêter à l'inchallah. Il nous restera donc finalement une dernière partie. Je voulais terminer en deux parties et reprendre un peu de tafsir jusqu'à l'Aïd, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de tafsir malheureusement. Mais non, on est à 25 minutes, il ne faut pas que ça prenne trop de temps pour écouter. Le but c'est Al-Amal. Ce qu'on verra demain, Inch'Allah, ce sont la prière, le nombre d'unités de rakat qu'on peut faire, la façon de prier, qu'est-ce qu'il faut lire, les génuflexions, les prosternations, et deux invocations importantes, quelques invocations importantes avec le sens qui pourra donner un autre niveau à nos prières. Qu'Allah Rabbul Izza nous accepte pour ce soir, île de la Réunion. Si l'audio est en ligne ce soir, c'est pas le bon fichier, donc il y aura une manipulation à faire, pas sûr que ce soit en ligne ce soir, mais ce soir c'est la nuit du 24e Ramadan pour la Réunion, et pour nos frères et sœurs de métropole et ailleurs, c'est 25e, donc c'est une nuit impaire. Qu'Allah nous permet d'être en adoration et de répondre présent, et qu'Allah nous accorde l'ouverture de la poitrine, que nos poitrines soient ouvertes et prêtes à accueillir cette lumière qui descend. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.